Vous écoutez France Culture.
Vous avez vu que le soleil inonde le studio 1.
C'est complètement faux ce que je viens de raconter.
De France Culture, mais ça ne va peut-être pas durer. On écoutera, on suivra le temps selon que vous nous l'avez annoncé. Merci Mathieu Laurent. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 8h avec Amélie Perrier. Les matins de France Culture, il est 7h40.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Mediator, pilule de troisième génération, statine, sur les médicaments, les révélations pour les uns ou prétendues révélations pour les autres se succèdent et les médicaments pourraient presque se mettre à nous terroriser. En avril, ce sont par exemple deux nourrissons qui sont morts après avoir reçu un vaccin anti-gastro. Alors face à la montée d'une certaine défiance contre les médicaments et la difficulté pour les patients de s'y retrouver, 32 experts ont voulu nous aider à démêler le vrai du faux en publiant chez Odile Jacob la vérité sur vos médicaments. Et le chef d'orchestre n'est autre qu'André Grimaldi. Bonjour André Grimaldi.
Bonjour.
Vous êtes professeur de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Vous avez participé à la rédaction de ce livre qui vous tient très à cœur avec notamment un chapitre sur la question du médiator. Nous y reviendrons dans quelques instants. Alors évidemment, les questions qu'on se pose comme toujours, faut-il avoir peur des médicaments? Qui les contrôle? Alors que la consommation française des médicaments reste très élevée par rapport à nos voisins, comment améliorer l'usage que nous en faisons? Est-ce qu'on en prend au fond trop. Nous verrons tout cela avec vous. Nous aurons le temps de débattre, mais peut-être, et je profite de vous avoir sous la main, professeur André Grimaldi, pour peut-être aborder quelques questions d'actualité et demander au fond ce que le grand professeur que vous êtes, mais qui avait notamment publié notamment de nombreux ouvrages sur les questions de la santé, hein, où va le système de santé français en 2010, ou encore l'hôpital malade de la rentabilité ou la santé confisquée. Bref, que pensez-vous de ce projet de loi qui a mis tout de même une très grande majorité de toubibs dans la rue concernant la loi santé de Marisol Touraine qui consiste à généraliser le tiers payant et qui a vu au mois d'avril les manifestations des médecins libéraux s'insurgeant contre cette mesure, sans doute provoquant pour eux beaucoup de paperasserie, une crainte de ne pas être remboursé. Comment voyez-vous ce mouvement-là sur cette loi Touraine qui a été adoptée en première lecture le 14 avril dernier?
Bon, cette loi est diverse. Beaucoup de chapitres. Il y a des chapitres de santé publique très positifs. Par exemple, la suppression de la semaine de réflexion avant l'interruption volontaire de grossesse. Ou les actions de groupe pour les patients. Quand il y a une affaire médiator, justement, que chaque patient ne se trouve pas seul face à la justice, mais puisse agir en groupe.
Sur le modèle des class actions américaines.
Exactement. Tout ça, c'est des points positifs.
Oui, mais alors, il y a un point, celui qu'on a retenu,
ce qui a fait polémique, c'est le tiers payant. Or, c'est pas un point fondamental. Ça l'est. Si c'est une machine à gaz invraisemblable pour les médecins qui doivent passer 5 minutes dans leur cabinet, ça, je comprends qu'ils soient totalement en colère. Mais admettons que ce soit complètement simplifié, ça, c'est un problème, au fond, marginal dans le système de santé. Ça ne change rien aux franchises.
Pour un problème marginal, ça a mis tous les médecins dans la rue.
Oui, parce que les médecins craignent, alors là, depuis toujours, je dirais, qu'ils soient mis sous la dépendance des financeurs.
C'est ce qu'ils ont dit.
C'est ce qu'ils disent. Ils craignent.
Et l'État, surtout.
Et l'État. L'État ou les financeurs, les complémentaires, les assurances privées, ou l'État ou la sécurité sociale. Donc, ils ont ça de tout temps. Alors, c'est en partie un fantasme, parce que dès aujourd'hui, quand on est en secteur 1, on est quand même payé par la sécurité sociale. Donc, ça simplifie les choses. En gros, c'est une modernisation. C'est pas vrai que ça met les médecins sous tutelle.
Ça ne fait pas par une contre, médecine étatisée.
Non.
Pas plus qu'elle ne l'est déjà, après
non,
tout.
Pas plus qu'elle ne l'est déjà. Par contre, ça ne change rien aux franchises. Ça change rien au forfait, ça change rien au dépassement d'honoraires. Donc dire que c'est un grand progrès social, c'est aussi un abus. C'est au fond une mesure.
Marisol Touraine l'avait présenté cette loi, entre autres, comme étant non pas forcément une loi pour les pauvres. Elle dit il y a un arsenal de choses qui existent déjà, mais au fond une loi pratique et utile pour les classes moyennes, les familles qui gagnent 2 500, 3 000 euros par mois, qui ont 2-3 gosses et voilà qui pourront ne plus avancer du tout d'argent chez le toubib quand les trois sont malades en même temps, par exemple.
Donc c'est vrai pour un certain nombre de patients, mais encore une fois quand vous êtes dans des dépassements d'honoraires en stomatologie, en optique, en soins, là où il y a les problèmes, soins dentaires et soins d'ophtalmologie, eh bien là, ça ne changera rien. Donc, c'est pas... Quel était le grand sujet auquel on passe à côté? Le grand sujet, ce sont le développement des maladies chroniques. 17 millions de patients, ça ne fait qu'augmenter.
Alors, un exemple, c'est quoi une maladie?
C'est le diabète, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est la maladie de Parkinson, ce sont toutes ces maladies, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'insuffisance coronaire, enfin bien. Comme le vieillissement de la population s'accentue, ces maladies se développent, qui sont aussi liées à l'environnement, et c'est un grand sujet, parce que ça joue à la fois sur la prévention, C'est un sujet sur la coordination des soins entre la ville et l'hôpital. Or là, nous sommes dans une vraie difficulté. Nous n'avons pas un système de santé en France. Nous avons un système de soins et un système clivé entre l'hôpital et la ville. Or là, on a complètement reculé et on passe à côté du sujet. Je veux dire, ce sujet va...
Pour quelles raisons, selon vous? Parce que ce sont des sujets que nous abordons régulièrement, et notamment avec vous, dans les matins de France Culture, et on a l'impression que, malgré les avertissements, malgré surtout aussi les compétences des uns et des autres, la vôtre, d'autres collègues à vous, on se souvient notamment du professeur Lioncan, que le sujet n'avance pas beaucoup.
Ben pour deux raisons.
Alors, on parle beaucoup aussi des réformes de la carte, hein, voilà, la carte des hôpitaux, il faut regrouper, enlever, fermer ici et là, mais ça ne va, au fond, pas plus loin.
Oui, parce que quel est le modèle que nous avons? Nous avons deux modèles. Nous avons le modèle de la médecine libérale, du médecin seul dans son cabinet qui gère ce qu'on peut dire sa petite boutique, hein, avec le paiement à l'acte. Une consultation, c'est un tarif. Et puis, on a développé une médecine que certains ont caricaturé en disant médecine industrielle, et à l'hôpital, et paiement à l'activité. Ces deux modèles sont inadaptés, complètement inadaptés à la prise en charge d'un malade chronique. Le diabétique qui va voir 9 fois par an son médecin généraliste pour qui consacre 15 minutes à chaque consultation, c'est totalement inadapté. Il y a des malades qu'il faut voir souvent, d'autres qu'on pourrait voir tous les ans ou tous les 6 mois. Mais encore faut-il avoir un forfait de financement. Et puis faut-il que l'hôpital et la ville ont un intérêt commun à travailler ensemble. Or on fait tout à fait l'inverse. On a dit à l'hôpital, paiement à l'activité, donc augmenter l'activité. Et aujourd'hui on lui dit non, il faudrait faire en ville. Donc on est dans contradiction complète, on n'a pas mis en place un système coordonné entre la ville et l'hôpital qui prend en charge ses malades de manière forfaitaire, sur un forfait de prise en charge. Donc tout est à repenser.
Pour quelle raison selon vous?
Parce que la médecine libérale d'une part est très hostile, elle est très accrochée au paiement à l'acte, et puis il y a eu une vision qui s'est développée en raison du progrès technique que la médecine devenait une industrie. On a dit, le médecin est un ingénieur, la médecine devient industrielle, l'hôpital est une entreprise. Donc on a importé à l'hôpital avec la loi HPST, la loi Bachelot, on a importé un modèle d'hôpital-entreprise et ensuite d'hôpital marchand en quelque sorte. Donc nous on reçoit un message de nos directeurs, faites de plus en plus d'activités, hospitalisez de plus en plus. Et en même temps, on dit il faut au contraire adresser en ville tout ce qui peut être fait en ville par les médecins, encore faut-il être coordonné, travailler avec des infirmières, travailler avec les paramédicaux, travailler avec les psychologues, ce qui n'est pas le cas en ville.
Faut-il lire en creux, professeur Grimaldi, une critique du gouvernement actuel qui n'aurait pas remis en cause, comme il l'aurait promis éventuellement, ses atours de la loi Bachelot sur l'hôpital?
Oui, il suit une certaine pente, c'est-à-dire qu'il a remis dans la loi le terme de service public hospitalier.
Mais c'est bon, la moindre des choses, ça. Voilà. C'est comme Radio
Mais
France.
C'est un terme. Un service public hospitalier ne cherche pas la rentabilité. Or, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire des activités rentables. Un service hospitalier,
ça, pour vous, c'est un non-sens. Hein.
Oui, c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens pour les maladies chroniques. C'est pas un non-sens dans les gestes techniques. C'est quand même une partie de l'activité. C'est pas un non-sens de payer l'activité pour une prothèse de hanche, pour une opération de la cataracte en ambulatoire. C'est un non-sens dans la prise en charge des malades chroniques qui est le grand sujet sur lequel nous butons.
Autre sujet sur lequel la ministre risque de buter, je ne sais, c'est l'appel à la grève à l'APHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Pour le 21 mai prochain, 3 syndicats de l'assistance publique ont déposé un appel à la grève contre le plan stratégique de l'établissement et la future réforme du temps de travail. L'enjeu, pour essayer de le simplifier, est des questions de RTT et d'internes qui doivent un peu moins travailler qu'ils le font aujourd'hui dans les hôpitaux, sous peine que les hôpitaux éventuellement soient sanctionnés, ce que certains disent comme une aberration, puisque au fond, l'interne, celui qui finit ses études en médecine, eh bien, il ne doit pas, qui sait comme les jeunes journalistes, compter ses heures.
Oui, c'est un vrai sujet. En médecine, il y avait une formule, hein, le métier de médecin, c'est difficile pendant les 80 premières années, et après, ça va tout seul. Donc, c'est vrai
que... Je ne connaissais pas celle-là.
Nous sommes dans la culture où on ne regarde pas sa montre et on n'est pas payé à l'heure. Hein. Maintenant, il y a des limites aussi. Il y a des limites, il y a des abus dans un certain nombre de secteurs. Mais généraliser, prendre des mesures générales, ça fait beaucoup de mal à l'hôpital. Je dois dire que l'application des 35 heures à l'hôpital a été très douloureuse pour l'hôpital lui-même. Bon, donc ça a fait venir des intérimaires, ça a disloqué un travail d'équipe. Si des internes sont là que 3 jours par semaine, ils s'intègrent plus à une équipe de soins. Ce qui est décisif dans l'hôpital.
Je ne rentrerai pas dans le détail des horaires, hein, qui est trop complexe. Non, mais je renvoie les auditeurs à
ce qui est décisif dans un hôpital, c'est une équipe. Voilà. C'est comme sur un bateau en train de ramer. Si vous avez un qui rame qu'à mi-temps, vous comprenez bien que ça va disloquer votre. Alors c'est ce qui se passe maintenant à l'hôpital, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là en permanence, d'autres qui viennent que deux jours, ou alors qui sont dans un jour dans une unité et le lendemain dans une autre unité. Comment voulez-vous assurer la continuité des soins? Et cette continuité, elle conditionne la qualité. Donc ça, c'est un vrai problème. Les équipes de soins, l'hôpital, repose sur des équipes. Et si on ne dit pas ça comme dogme absolu, alors on abîme beaucoup la qualité des soins.
Ces revendications, hein, en vue du 21 mai prochain, s'inscrivent, professeur Grimaldi, dans un climat qui est tendu. Hein. On demande au fond 3 milliards d'économies, hein, 3 milliards d'euros d'économies doivent être trouvés à l'hôpital d'ici 2017. Et les directeurs d'hôpitaux s'inquiètent des coûts qu'engendreront ces réformes.
Oui, mais c'est surtout
sur
en même
quoi
temps,
on va les trouver selon
on demande ça, mais on demande de manière contradictoire. C'est-à-dire que, d'un côté, on vous dit, on ne va pas supprimer de personnel. C'est ce que dit la ministre. Mais vous êtes dans la tarification à l'activité. Donc, vous allez multiplier votre activité hein, pour pouvoir tenir, parce qu'on vous baisse les tarifs. L'enveloppe diminue, les tarifs baissent, et on vous dit plus d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? C'est-à-dire que vous devez travailler plus avec moins de moyens. Donc ça, ça disloque complètement, ça entraîne pour les infirmières qui sont en première ligne des conditions de travail qui s'aggravent considérablement. Et à la fin, pour la moitié des hôpitaux, au moins un déficit. La moitié des hôpitaux seront en déficit. Qu'est-ce qu'on fera? On va dire plan de retour à l'équilibre, non remplacement du personnel qui part en retraite. Donc il y aura bien une diminution des effectifs, 20 000 à peu près.
Si vous nous décrivez quand même une politique de billard à trois bandes, là.
Oui, absolument, parce que la ministre ne supprime pas des emplois, mais ce sera les directeurs d'hôpitaux qui devront le faire. Donc les directeurs d'hôpitaux, pour la moitié d'entre eux, devront. Alors chaque année, on a ça. On a l'hôpital de Lille était en équilibre. Ben, l'année suivante, il ne l'est plus. Donc à nouveau, quand on a fait plein d'efforts, eh ben, ça ne suffit pas. Et c'est toujours plus avec toujours moins. Donc il faudrait sortir, la grande mesure serait de sortir toutes les maladies chroniques de la tarification à l'activité, en disant aux différents services, aux différents hôpitaux, vous avez un budget, organisez-vous dans ce budget, de manière à diminuer les coûts et à maintenir la qualité des soins. C'est pas ce qu'on fait. Hein. Par exemple, je prends mon service.
Votre service, je rappelle, c'est la diabétologie à la Pitié.
On pourrait développer un centre d'activité ambulatoire, mais le directeur nous dit, ah non, elles sont pas rentables, vous pouvez pas. Donc, voilà, tant que vous n'avez pas une tarification qui vous permet de le faire, ben vous ne le faites pas. Donc, vous êtes condamné à multiplier une activité dite rentable, ce qui est contradictoire avec la logique du service public.
C'est quelque chose que vous vous attendiez à connaître dans une vie de médecin comme la vôtre, professeur Grimaldi?
Ah non, moi, ça a été un grand tournant parce que j'ai connu, bon, je suis salarié, j'ai pas d'activité privée, et notre but c'était de moderniser, de diminuer les lits. Moi, j'avais diminué de moitié les lits du service parce que la médecine progressant, beaucoup de choses qui se faisaient dans des hospitalisations longues se faisaient dans des hospitalisations courtes ou en ambulatoire. Et du coup, on transférait des infirmières qui étaient en salle d'hospitalisation en activité ambulatoire, les meilleures infirmières qui faisaient des consultations. Donc, on a un sentiment d'un progrès. Tout ça a été figé. Nous aurons à dire, attendez. Seules les activités rentables doivent être maintenues. Donc moi, par exemple, j'avais une consultation le samedi matin jusqu'à 2h de l'après-midi. On m'a dit, ah non, c'est pas rentable. Ça mobilise une infirmière, faut supprimer la consultation du samedi, qui était quand même utile pour les patients.
Elle est super utile, la
consultation du samedi. Parce que c'est un jour où ils peuvent venir.
Oui.
Bon, et ils peuvent venir même, y compris parfois de province.
Oui.
Bon, pour consulter, ben, on a dit, non, elle n'est pas rentable, donc il faut la fermer. Donc vous dites, là, on est dans la contradiction complète. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme activité rentable? Eh bien, développer telle activité. Vous pouvez augmenter les hospitalisations. Alors, on recevait comme message de nos directeurs, augmenter de 3% l'activité. Mais c'est absurde pour un médecin. Un médecin ne vise pas à augmenter l'activité. Il vise à soigner en fonction des besoins. Point final.
Il n'y a pas le mot rentable dans le serment d'Hippocrate.
Si, ben non, il n'y a pas le mot rentable dans le serment d'Hippocrate. Il y a même l'inverse. Mais il y a même l'inverse. Simplement, ce mot est devenu maintenant banal. Il est employé par les médecins eux-mêmes. Récemment, des neurochirurgiens disent « Notre activité est rentable. Il faudrait donc que nous puissions en profiter. »
Ou alors rentable, on aurait pensé dans le cas où on guérit les gens à 100%, quoi. Ça serait
oui,
ça,
c'est rentable pour la société. Mais là, on parle d'une rentabilité d'établissement. C'est-à-dire, ce qui est rentable pour la société, ben, c'est qu'il y ait le moins de malades possible. Tandis que ce qui est rentable pour l'établissement, ben, c'est qu'il y en ait le plus possible. C'est du moins qu'on hospitalise le plus possible. Donc, on a un système qui... Ça ne pourra pas durer éternellement. Entre un budget général qu'on vote chaque année et qu'on limite de plus en plus, et en même temps une logique de tarification à l'activité, vendez le plus en plus. Ça, cette contradiction-là, qui crée une grande souffrance pour les professionnels, parce que sur le terrain, ça veut dire ce que je vous ai dit, hein. Les malades doivent rester que 2 jours ou 3 jours, et il faut tourner en permanence. Rajoutons, avec 35 heures, comment vous faites? Donc, il y a une démobilisation de nombreux soignants.
Vous le ressentez sur les jeunes médecins, sur les jeunes confrères, les jeunes professeurs que vous voyez arriver à la Pitié?
Ben oui, parce que nous, on avait un sentiment de liberté fantastique. On avait un sentiment de pas compter notre temps, mais d'avoir une liberté pour nous organiser. C'est fini. On a eux, le sentiment qu'ils sont vraiment dans des contraintes permanentes, qu'ils n'arrêtent pas d'être dans les contraintes et qu'ils font beaucoup de tâches administratives ou de tâches de secrétariat qui ne relèvent pas de leur formation. Vous n'avez pas fait 10 ans de médecine pour être en train de frapper les comptes rendus le soir, pour passer son temps au téléphone pour obtenir les rendez-vous. Donc vous avez un sentiment en même temps de ne pas faire votre métier.
Voilà, alors je vous rappelle que le projet de loi de Marisol Touraine est donc passé en première lecture à l'Assemblée. Il est à l'examen au Sénat en procédure accélérée depuis le 15 avril. Professeur Grimaldi, la vérité sur vos médicaments, 32 spécialistes répondent à toutes vos questions chez Odile Jacob. Alors, pas tous les citer, c'est avec le professeur Berkman, le professeur Chasse, le professeur Lejeune, une consoeur Catherine Hédon de Radio France Internationale. Mais enfin, quel diable de mouche vous a piqué pour vouloir écrire un livre à nouveau? Il en sort à peu près un par an sur, cette fois, votre vérité sur le médicament, professeur Grimaldi.
Oui, ben, l'idée, c'est... D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait notre vérité, c'est l'idée, la vérité scientifique. Alors, la vérité scientifique, on s'y approche, ce n'est pas une vérité révélée. Hein. C'est une vérité qui peut être contradictoire, débattue. Mais, à la suite des scandales que vous avez évoqués au début, notamment l'affaire du Mediator.
Alors, Mediator, voilà, hein, avec Irène
Frachon... Qui est très important, parce que Mediator, c'est une escroquerie. C'est pas... les aléas de la médecine, des médicaments qu'on croyait utiles, se révèlent à la longue avoir des effets secondaires. Là, c'est une escroquerie. Et cette escroquerie, grâce à Irène Frachon, a été révélée, confirmée par l'utilisation des bases de données de la Sécurité sociale. Donc ça, c'est quand même un progrès. Pour la première fois, on a pu utiliser les bases de données de la Sécurité sociale qui sont considérables, les mettre en parallèle avec les hospitalisations et les causes d'hospitalisation et démontrer parfaitement que ce médicament était responsable de complications cardiaques très sévères. À la suite de quoi, les sociétés savantes, l'Académie de médecine, se sont tues. N'ont pas dit, pour nous, c'est une rupture, comme vous disiez en évoquant Hippocrate, c'est une rupture fondamentale d'un pacte de confiance. Du coup, arrive maintenant dans différentes personnalités qui, à partir de là, développent leur propre concept, remettant en cause une vérité scientifique. L'un dit, tous les vaccins sont très dangereux, ne vous vaccinez pas, je ne me vaccinerai plus. L'autre dit, les statines, c'est comme le Mediator, voire pire, hein, alors que c'est un médicament absolument majeur dans le risque cardiovasculaire.
On va dire, il y a un exemple, on va pas tourner autour du pot, hein, vous réglez son compte et c'est vous-même qui vous en chargez dans un encadré, page 112 et 113, à Philippe Evan, que nous avions d'ailleurs reçu, hein, pour son livre ici, où vous dites, il a des mérites, à savoir de secouer le cocotier, mais il a beaucoup de tort, c'est parfois de dire scientifiquement n'importe quoi.
Oui, absolument. Et c'est un problème très important, parce que arrive un professeur de médecine, ancien doyen, qui déclare que les statines, c'est pas plus efficace que l'homéopathie, mais beaucoup plus dangereux. Bon, les statines, c'est un médicament indispensable qui diminue la mortalité des patients qui ont fait un infarctus du myocarde, qui diminue la mortalité des patients à haut risque d'infarctus comme les diabétiques. Actuellement, le taux d'infarctus, l'incidence de l'infarctus du myocarde chez les diabétiques est en train de baisser considérablement dans tous les pays, grâce en partie à ces traitements. Pas seulement. Évidemment, il y a le tabagisme, il y a d'autres facteurs. Mais ça est démontré à l'échelle internationale. Il n'y a pas de débat à l'échelle internationale sur cette question.
Et vous voulez...
Et arrive un grand professeur, mais les conséquences sont dramatiques. C'est que des mêmes patients ont dit, mais j'arrête. Nombre de patients ont arrêté le traitement. Donc, c'est pas possible qu'une communauté scientifique ne réagisse pas à de tels propos.
Alors, vous savez de quoi est coupable le médecin ou le prof, le toubib comme vous, qui défend les médicaments? Certains vont se dire, ah, il doit être payé par les labos.
Oui, alors bon, ça c'est un vrai sujet. Ouais. C'est-à-dire que dans ce livre où il y a 32 spécialistes, nous avons tous déclaré des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts le plus exactement. C'est-à-dire, si j'ai travaillé ou j'ai fait une conférence ou j'ai fait une expertise pour un laboratoire, j'ai été rémunéré, c'est déclaré. il faut aller plus loin, que les sommes soient déclarées, ne pose pas de problème, la transparence doit être la règle.
À 8h15, le débat introduit par Brice Couturier. Docteur Couturier, bonjour.
Bonjour docteur Boinchet. Écoutez, oui, ce qui ressort de votre livre, c'est que depuis l'affaire du médiateur, vous percevez une exigence beaucoup plus grande des autorités sanitaires françaises nationales et puis aussi européennes. On remarque que l'Agence française des médicaments a été supprimée, a été remplacée par une Agence nationale de sécurité du médicament. Apparemment, ses membres sont plus indépendants de l'industrie pharmaceutique, mais est-ce qu'on a vraiment changé d'époque? Est-ce qu'on est vraiment, comme vous semblez le suggérer, à l'abri d'un nouveau scandale sanitaire type Mediator?
Ce sera à 8h15 la réponse pour l'instant. Il est 8h.